Euradio. Aimez-vous l'Europe?
Mukhtia Europa.
Do you love Europe?
Amais Europa.
L'interview d'Euradio.
Bonjour Sébastien Maillard. Donc vous êtes le directeur de l'Institut Jacques Delors et vous participez du coup à ce colloque « Quel avenir pour la civilisation européenne ?» toute la journée d'aujourd'hui du coup. Donc vous avez choisi de nous parler de la proposition du colloque, d'une des 10 propositions qui s'intitule donc « Définir les niveaux de conscience pour mettre en œuvre une politique culturelle européenne ». Déjà, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu cette proposition et ensuite on ira vraiment dans les détails?
Bien. Dans cette proposition, le mot important, c'est conscience. Puisqu'on parle beaucoup de citoyenneté européenne, mais la citoyenneté européenne est inséparable d'une prise de conscience d'être européen, d'appartenir justement à cette civilisation européenne qui est dans l'intitulé de ce colloque. C'est un mot parfois aussi redouté parce qu'il est presque, il nous dépasse et on a presque peine à réaliser que nous avons une civilisation qui nous est propre, et c'est souvent les non-européens qui la reconnaissent avant nous, et qui en ont plus conscience que nous. Et donc, c'est à nous de la voir. Et cette prise de conscience, justement, elle passe par une politique culturelle qui cesse d'opposer Europe et nations comme si c'était l'un ou l'autre, ou deux choses contraires. Au contraire, on sait que l'Europe, elle n'existe pas sans ses nations, sans ses villes, sans tout ce qui la constitue. Et l'Union européenne en est une expression institutionnelle, mais ce serait réducteur que de voir l'Europe uniquement à travers le prisme institutionnel de l'Union européenne. Et c'est ça le sens de cette proposition. On ne peut pas se sentir européen uniquement, je dirais, à travers la Commission, où ce serait trop lui en demander. C'est un peu comme si, je dirais, vous demandiez puisqu'on parle à Radio Nantes, je sais que Nantes et la Bretagne, c'est tout un débat qu'on va pas ouvrir ici, mais vous ne voudriez pas, ce n'est pas le fait d'appartenir ou non au Conseil Régional de Bretagne qui fait que vous vous sentez breton. Et ce n'est pas forcément le Conseil Régional de Bretagne qui va développer cette conscience bretonne, en tout cas pas uniquement, ça le dépasse largement. Et bien c'est pareil pour des institutions européennes, elles s'appuient sur cette civilisation, mais qui bien sûr, encore une fois, les dépasse, elles en sont les héritières, et la prise de conscience européenne, elle passe à travers une politique culturelle qui, bien sûr, il s'agit d'expliquer les institutions européennes, mais ça va bien plus loin que ça. Il s'agit de savoir mieux, finalement, qui nous sommes, nous, Européens. On a même du mal à prononcer ce « nous, Européens ». Mais très souvent, on nationalise vite les choses. Par exemple, oui.
Oui, parce qu'il y a quelque chose qui est un argument qui est souvent avancé par, en tout cas, les anti-Européens, qui est qu'il n'existe pas de peuple européen. C'est quelque chose personnellement, je trouve assez amusant, puisque, effectivement, les Italiens n'existaient pas il y a un siècle. Donc, les Européens n'existent pas pour le moment. Est-ce que, on a besoin de former cette conscience européenne à travers la culture, notamment?
Lorsqu'on parle de déficit démocratique de l'Europe, effectivement, souvent, on pense à l'institution, mais le vrai déficit, c'est pas vrai, c'est le démos, au sens de l'absence d'un véritable peuple européen au singulier. Et l'idée de l'Europe, c'est pas forcément d'un grand melting pot où il n'y aurait plus qu'un seul peuple européen, ou alors il peut exister en tant que, au sens vraiment politique du terme. Mais sinon, l'Europe est constituée et elle a toujours été de nombreux peuples, au pluriel, européens qui la composent. Mais ces peuples, ensemble, forment une civilisation qui, après, se décline avec plein de cultures différentes. Lorsque vous êtes en Espagne, et encore selon où vous êtes en Espagne, en Andalousie, au Pays Basque ou en Catalogne, selon que vous êtes à Naples ou à Milan, que vous êtes à Bruges ou à Liège, vous vous sentez bien. Même dans un même pays, il peut y avoir plusieurs cultures différentes, mais il y a au-delà, même en citant justement tous ces pays, on peut aussi faire valoir des aspirations communes, des héritages communs, une mémoire commune qui fait que nous appartenons à une même civilisation. Et ça, c'est seulement une politique culturelle qui, à travers la valorisation du patrimoine artistique, à travers l'enseignement aussi de l'histoire, fait valoir tout ce qu'on a en commun. Ça ne veut pas dire que tout est pareil. Dire qu'on a des choses en commun, ça ne veut pas dire qu'elles sont semblables. Mais ça veut dire qu'on a, on a beaucoup parlé avec l'incendie de Notre-Dame de Paris du style gothique du Moyen-Âge. Et ce style gothique, on voit bien qu'il existe aussi bien en Finlande, à Turku, qu'à Burgos en Espagne, ou à Cologne ou à Canterbury. Je ne pourrais pas faire toute l'énumération de toutes ces belles cathédrales, mais on voit bien qu'il y a un style gothique, il se décline de plein de façons, avec, selon les roches, les pierres qu'on trouve, selon qu'il est manuelin au Portugal ou autre. Donc voilà, c'est un exemple, une image, je voudrais dire, à comment une civilisation peut se décliner de plein de manières localement, mais avec le sentiment d'appartenir on peut extrapoler ça, je dirais, dans plein de facettes de notre civilisation.
Ça va peut-être sans dire, étant donné que vous êtes le directeur de l'Institut Jacques Delors, mais cette citation de Jacques Delors, justement, si c'était à refaire, je commencerais par la culture, vous vous inscrivez pleinement dedans, j'imagine.
C'est une citation que l'on prête à Jean Monnet, et qu'il n'aurait jamais dite. Alors, je ne sais pas dire très bien ce que ça veut dire, commencer par la culture, mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas faire sans la culture, au sens où, de toute façon, maintenant, c'est trop tard, on a commencé la construction européenne, on a commencé avec le charbon et l'acier, mais même lorsqu'on regarde la déclaration Schuman, les premiers paragraphes, ce ne sont pas directement sur la communauté européenne du charbon et de l'acier, ils s'appuient sur une mémoire commune de peuples qui ont traversé des épreuves en Lorraine, en Sarre, à Ruhr, et qui ont, au-delà de leurs frontières, justement, cette civilisation commune. Et lui-même sentait bien qu'il a partagé avec Adenauer, avec De Gasperi, d'autres. Donc, on peut commencer par la culture si, effectivement, on enseigne on apprend à connaître même notre propre pays à travers son appartenance à l'Europe. De même que je dirais l'Europe serait sans doute rien sans la France, mais la France serait rien sans l'Europe. Et c'est vraiment intimement lié. On a fêté dernièrement le 500e anniversaire de la mort de Léonard de Vinci. Et c'est pas pour rien que c'était une manifestation franco-italienne, puisque Léonard de Vinci a vécu à Amboise, mais donc aussi, bien sûr, il est né en Toscane. Et donc, c'est effectivement à une époque où parfois on peut faire des anachronismes lorsqu'on parle d'être italien ou que Rembrandt est néerlandais ou que Charlemagne serait français. Lorsque vous voyez le portrait en pied de Charlemagne dans le Parlement belge, parce qu'il serait né peut-être du côté de Liège, ça ne veut pas dire qu'il était belge. Ça ne veut pas non plus dire qu'il était français ou italien, roi des Lombards ou allemand. Tout ça, en fait, ce sont des anachronismes. Et effectivement, on doit aussi apprendre à ne pas nationaliser trop vite des figures historiques. Lorsque je vois que Mozart, dans l'avenue qui porte son nom à Paris, il est marqué compositeur autrichien. Certes, il est autrichien, ça c'est indéniable, mais on sait qu'il a puisé son inspiration dans toute l'Europe. Il a donné des œuvres à Prague, il a été dans la Chapelle Sixtine à s'inspirer à Rome. Donc, il est aussi. Et lorsqu'on écoute sa musique, on ne dit pas tiens, je vais écouter de la musique autrichienne. Et donc, la conscience européenne, elle passe par une politique culturelle qui dépasse les nationalismes pour faire valoir, encore une fois, tous les traits communs nos grands artistes, notre patrimoine partagent et peuvent nous aider à créer ce sentiment d'appartenance entre nous.
C'est donc plus que la culture au sens artistique, c'est aussi la culture au sens d'un héritage, un héritage qu'on a de toute manière en commun, et c'est pas possible de le nier, comme le font par exemple Matteo Salvini sur Léonard de Vinci, dont on parlait il y a quelques instants.
Oui, on a ces choses-là en commun. C'est pas seulement artistique, c'est déjà beaucoup d'ailleurs, tout le patrimoine. Ce sont aussi, je pense, les villes. Me frappe lorsqu'on compare nos différentes villes, qui sont vraiment des traits marquants de l'Europe, et peut-être où on peut, vraiment des lieux où on peut peut-être parfois mieux s'intégrer, on peut parfois mieux se sentir citadin d'une ville que citoyen d'un pays lorsqu'on n'en est pas originaire. Et là, il y a dans l'urbanisme, dans notre protection du patrimoine, notre approche de cela, beaucoup aussi de traits caractéristiques. Je pense aussi en fait à la culture gastronomique. Je pense que c'est aussi l'Europe est aussi connue pour ça. On a beaucoup d'appellations contrôlées, d'indications géographiques protégées, et c'est quelque chose dans les différents pays auxquels on tient tous, particulièrement peut-être en France, en Italie, mais pas seulement, loin de là. Et c'est aussi il ne s'agit pas effectivement encore une fois, c'est un bon exemple de ne pas que on mange tous la même chose et que on est tous le même menu, la même nourriture. Au contraire, c'est cette diversité qu'on fait valoir, mais l'attachement à des produits bien faits qui viennent du terroir et qui ont une signification qui va au-delà de leur propre goût. Eh bien, ça, c'est, je pense aussi un peut-être caractéristique de ce que nous pouvons partager en commun.
Donc, unis vraiment dans la diversité, on pourrait vraiment résumer cet entretien dans cette phrase-là. Juste une dernière question, du coup. La politique culturelle, est-ce que vous comptez Erasmus dedans ?
On peut compter Erasmus dedans. Et d'ailleurs, Jacques Delors est le père de ce programme, sans doute le plus populaire aujourd'hui parmi les Européens. Parce que lorsqu'on passe du temps dans un autre pays pour y étudier, et même si on est très sérieux et qu'on passe tout son temps dans les amphis et la fac, on vit quand même une expérience dans un autre pays qui vous ouvre l'esprit, qui développe l'esprit critique et ses caractéristiques de l'Europe. Et c'est bien sûr, ça peut participer à cette prise de conscience d'appartenir à une même civilisation. Mais c'est important que Erasmus ne soit pas limité aux seuls étudiants. C'était déjà possible de le faire dans d'autres cadres, mais il faudrait le faire beaucoup plus largement, avec même dès le lycée, pour une courte période. Et nous, à l'Institut Jacques Delors, nous plaidons pour un Erasmus lycéen et un triplement du budget d'Erasmus pour déjà donner une première ouverture et une ouverture d'esprit pour justement cette prise de conscience d'appartenance à une même civilisation.
Merci beaucoup Sébastien Maillard. Je rappelle que vous êtes le directeur de l'Institut Jacques Delors et que vous étiez présent du coup pendant la matinée au colloque « Quel avenir pour la civilisation européenne ?» Merci encore et très bonne soirée.
Merci à vous.